tous, nous sommes le lundi 1er décembre 2025. Vous êtes à l'écoute d'InfoClub Sandwich, votre émission d'actualité locale et associative. On commence tout de suite l'émission avec ton interview, Margot.
Merci Sonia et bonjour à tous. Alors aujourd'hui, c'est la journée de mobilisation mondiale contre le VIH-Sida. Et à cette occasion, nous recevons Emmanuel Beaudoinier pour nous parler de cette maladie et de l'association AIDS. Bonjour Emmanuel.
Bonjour l'équipe de Radio Campus, bonjour aux auditeurs et auditrices.
Alors je vous laisse vous présenter. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est votre rôle au sein de l'association AIDS ?
Alors moi je suis Emmanuel Beaudoinier, je suis le vice-président national et je suis le président de AIDS en Bourgogne-Franche-Comté, Grand Est et Hauts-de-France. Et je suis très heureux d'être ici parce qu'on a des choses à dire et c'est formidable que Radio Campus ait accepté de nous inviter.
Et c'est la bonne journée pour, on est très heureux de vous recevoir aussi. Donc c'est quoi AIDS ? Dans quel contexte aussi est née l'association ?
Alors AIDS, c'est la première association française et européenne de lutte contre le VIH-Sida. Donc on a été créé en 1984 suite à la mort du compagnon de Daniel Defer, Michel Foucault. Et c'est dans cette indignation que Daniel Defer a décidé de créer cette association parce que en fait, dans les années 80, on ne parlait pas. On parlait d'un cancer gay éventuellement. Et donc c'est une association qui s'est montée dans la colère, la révolte et dans une volonté de construire quelque chose où l'État était défaillant, était complètement à côté des politiques publiques. Et donc depuis maintenant plus de 40 ans, on essaye de continuer de faire vivre cet esprit et aussi de continuer à plaider sur les thématiques du VIH-Sida et comment est-ce qu'on accède à la prévention et aux soins.
Une association qui s'est aussi construite du coup dans l'urgence. Et donc, parce que quand avons-nous été confrontés au VIH-Sida pour la première fois ? Donc le SIDA, c'est le syndrome d'immunodéficience acquise, VIH pour virus de l'immunodéficience humaine. Donc comment est apparue cette maladie ?
En fait, aujourd'hui, on distingue pas assez, et c'était déjà le cas dans les années 80, la différence entre le VIH et le sida. Le VIH, c'est le virus, et donc, en fait, c'est apparu au début des années 80. Et d'ailleurs, c'est une Française c'est Françoise Barré-Sinoussi, qui a eu un prix Nobel. Et on a enfin mis une femme à l'honneur qui, suite à ses travaux de recherche, a réussi à isoler le VIH. Et petit à petit, en fait, la phase un peu terminale de ce VIH, c'est le sida, c'est la phase de maladie. Et donc, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, quand on n'a pas accès à un traitement, on en meurt. Et c'est pour ça que dans les années 80-90, on en mourait parce que nous n'avions pas de traitement.
Et donc, du coup, quand est apparu le traitement ?
Alors, les premiers traitements sont apparus à la fin des années 90. On était sur un traitement qui s'appelait l'AZT, qui était un traitement à prendre toutes les 4 heures et qui était absolument horrible. Déjà, qui n'était pas efficace dans un premier temps, en tout cas pas à 100%. On blindait les gens de molécules qui ont fait que, en fait, leur état, pour certains, ils ont réussi à passer entre les mailles du filet et pour d'autres, non. Et donc, d'ailleurs, c'était une très grande majorité. Et c'est à partir du début, toute fin des années 90, début des années 2000, qu'on a eu l'arrivée des trithérapies et qui là ont vraiment permis d'avoir des traitements. Ça s'est modernisé ces dernières années, on peut encore aller plus loin.
Pour faire un rappel, comment est-ce qu'elle se transmet, cette maladie ?
Alors, le VIH, sa première forme de transmission, c'est à l'occasion de rapports sexuels non protégés, qu'ils soient anal, vaginal ou oraux. Après, donc ça, c'est aujourd'hui dans la plus grande partie des cas. Dans les années 80-90, c'était chez les injecteurs de drogue où on retrouvait énormément la transmission. Et quand il n'y avait pas de traitement, il y avait la transmission mère-enfant. Aujourd'hui, on a des solutions pour tous ces sujets. Pour les consommateurs de drogue, c'est le matériel stérile pour éviter les contaminations entre les personnes. Par rapport sexuel, on a le préservatif et aujourd'hui, on a même des traitements préventifs, la PrEP, mais on en reparlera après. Et après, on a aussi tous les outils qui font qu'aujourd'hui, une personne qui est séropositive, qui prend un traitement, est indétectable et donc elle ne transmet pas le virus. Donc, on a vraiment cette palette d'outils qui vont du préservatif pour les rapports sexuels, les seringues pour les personnes qui sont consommateurs, consommatrices de drogue et le traitement qui agit aussi bien en préventif ou permet d'avoir une charge virale indétectable et donc de ne pas le transmettre.
Et quels sont les premiers symptômes de cette maladie ? Comment on sait qu'on doit être pris en charge ?
Eh bien, c'est ça qui est un peu dramatique en fait avec le VIH, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des personnes qui sont exposées au VIH ne sont pas symptomatiques dans un premier temps. Donc en fait, le VIH, c'est un virus assez sournois qui fait que, en fait, on va être infecté et on ne va pas le savoir. Et alors, il y a des personnes qui vont faire une primo-infection, hein, mais c'est moins d'un quart des situations. Et donc, pour les autres, ça va passer complètement invisible. Et les symptômes, ils vont se faire ressentir au bout de quelques années, où là, on va commencer à tomber régulièrement malade, à avoir des atteintes aux poumons, parce que, en fait, c'est un virus qui s'attaque au système immunitaire. Et donc, souvent, quand on le sait, c'est pas parce qu'on a le VIH, c'est parce qu'on va développer une autre infection, ce qu'on pourrait appeler, ce qu'on appelait à l'époque, et aujourd'hui, ce qui est un peu moins, plus rare, mais les maladies opportunistes.
Et au bout de combien de temps est-ce que le sida donc, se développe après le VIH ?
Alors aujourd'hui, en fait, on parle en système immunitaire. Donc c'est quand on a moins de 200 CD4 qu'on va être en dépistage très tardif. Et c'est quand on va développer des comorbidités qu'on va parler de sida. Aujourd'hui, on pourrait penser qu'on a passé cette période-là. Quelque chose qui est inquiétant, c'est que, alors qu'aujourd'hui, on a tous les moyens pour le dépistage, la prévention et autres, en France, on a encore 43% des personnes, et notamment en Hauts-de-France, qui sont dépistées tardivement. Et donc ça, c'est vraiment un sujet, c'est-à-dire que les personnes vont être exposées, infectées, le virus va se développer, va attaquer leur système immunitaire et parfois d'autres organes, et sans le savoir. Et c'est ça qui est assez horrible. C'est pour ça qu'on parle beaucoup du préservatif, évidemment que c'est important, mais en fait, le dépistage, c'est la première façon de faire rempart face à ce virus-là, se faire dépister pour avoir accès au traitement.
Et donc du coup, comme on parle des différentes solutions aujourd'hui proposées pour se protéger contre le VIH-Sida, est-ce que vous pouvez développer un petit peu sur la PrEP ? Qu'est-ce que c'est ?
Alors la PrEP, c'est ce qu'on appelle une prophylaxie pré-exposition. On n'aime pas les acronymes, mais souvent ils cachent des mots encore un peu plus lourds. Donc la PrEP, c'est un comprimé qu'on prend une fois par jour et c'est deux antirétroviraux qui permettent d'avoir une protection à 100% contre le VIH quand on la prend bien. Et donc ça a été un long combat parce que au niveau mondial, on a eu des premiers essais à Los Angeles ou à Londres fin des années 2000, donc au début 2009-2010, et en France, ça a été un long périple pour y avoir accès. On a dû demander à des personnes de continuer leur vie sexuelle et à qui on a donné cette molécule qu'on savait efficace de l'autre côté de l'Atlantique ou de la Manche. Et en fait, il y a 50% des personnes qui avaient le vrai traitement et 50% qui avaient un placebo. Et donc, il a fallu qu'on justifie des contaminations au VIH chez les personnes qui prenaient le placebo pour pouvoir montrer que pour les autres, en fait, il n'y avait pas de contamination. Et donc ça a été un long parcours qui a duré entre 2014 et 2015. Et en fin 2015, après plusieurs contaminations chez les personnes qui avaient le placebo et zéro chez les autres personnes, on a pu avoir accès à la PrEP. Et au départ, c'était très restrictif, puisqu'il fallait avoir eu des IST, multiples partenaires et autres. Ça a été un combat des dernières années. Moi, par exemple, en 2016, on m'a refusé la PrEP parce que je n'étais pas dans les publics cibles. Et 2 ans plus tard, j'ai découvert que j'étais séropositif. Donc, il y a encore des combats à mener parce que, en fait, le corps médical, les pouvoirs publics, même si aujourd'hui, on travaille mieux ensemble, surtout avec le corps médical, un peu moins avec les pouvoirs publics, c'est très compliqué.
Donc aujourd'hui, est-ce que la PrEP est accessible à tous ?
La PrEP est accessible à toutes et à tous. Et donc en France, on estime qu'il y a 100 000 personnes qui ont initié un parcours de PrEP. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la PrEP, elle est très connue chez les hommes qui ont d'autres rapports avec d'autres hommes, des hommes gays, mais elle est peu connue chez les femmes. Donc on a vraiment un enjeu aussi à faire connaître auprès des femmes et à la rendre plus accessible pour les personnes, notamment issues de l'immigration, qui vont arriver en France, qui se contaminent en France et en fait qui n'ont pas connaissance de ce dispositif-là. Donc 100 000 personnes, on pourrait croire que c'est énorme. En réalité, c'est beaucoup trop peu parce que c'est ça qui nous permettrait aussi de couper les chaînes de contamination.
Et pour se faire dépister, où doit-on se rendre ? Comment c'est accessible ?
J'ai l'impression de parler que de combat, mais très clairement, aujourd'hui, c'est un peu plus simple. Pendant longtemps, on était sur la prescription d'un médecin généraliste qui permettait d'aller au laboratoire. On a, suite à de longues négociations pendant la crise Covid-19 et après, on a réussi à généraliser le dépistage en laboratoire sans ordonnance avec une prise en charge. Donc ça a été un premier sujet. On peut évidemment toujours demander à son médecin traitant. Après, il y avait les centres de dépistage anonymes et gratuits qui sont maintenant des CEGID. On peut se faire dépister et donc ça a l'avantage d'être anonyme et gratuit pour les personnes qui auraient peur que ça se voit sur la carte vitale et notamment chez les jeunes sur la carte vitale de leurs parents, sur les remboursements de frais médicaux. Et après, à Aide, on propose du dépistage rapide. En 30 minutes, on peut rendre un résultat sur le VIH, hépatite C, hépatite B, syphilis.
C'est aussi possible sans rendez-vous maintenant dans les centres de prise de sang, laboratoires ?
Tout à fait. Normalement, les gens jouent plutôt le jeu, puisque vu que les laboratoires ont un intérêt financier à prescrire ces actes, évidemment, ça les intéresse un peu plus. Donc, il suffit d'aller dans un laboratoire de ville et de demander à faire un dépistage VIH. Donc ça, on a réussi à le simplifier. Ça a été compliqué, hein. Vraiment, en 2021, on sortait de la crise Covid-19. Pour toutes les pathologies chroniques, que ce soit cancer, diabète, maladie des reins, VIH, on a dû récupérer ce retard-là et ça a été très, très compliqué. On est content de ce qu'on a réussi à avoir, mais vraiment, on se demande parfois pourquoi ce n'est pas allé plus vite.
Et il faut continuer à se battre, de toute façon, pour garder nos droits.
il faut continuer à se battre. Moi, je crois beaucoup à la solidarité et à l'interassociatif pour se battre.
Et alors, c'est la saison du budget.
Oui.
Je crois que tout le monde est au courant maintenant. Donc, cette semaine, une façon un peu différente de le traiter sur nos antennes, parce qu'on va surtout parler du budget de la sécurité sociale. Premier morceau, on va doubler le coût pour les personnes pour la prise en charge des affections de longue durée. Qu'est-ce que ça veut dire dans le cadre de cette lutte pour essayer d'éradiquer le sida, même si l'ONU nous dit que 2030, c'est bon, ça sera fini?
Non, mais c'est super parce que, en fait, souvent, on parle du projet de loi de finances et du projet de loi de finances sécurité sociale comme un truc qui doit être maîtrisé que par des technos à Paris. Et en fait, pas du tout. Hein, ça nous concerne toutes et tous. Donc, sur le projet de loi de finances de la sécurité sociale, le gouvernement essaye chaque année, depuis 2017, de ralentir la progression. Donc, le budget est officiellement en augmentation, mais ça couvre de fortes inégalités par ailleurs. Et donc, une des attaques, hein, je considère que c'est une attaque, c'est les patients qui sont atteints d'une pathologie chronique. En fait, on a des franchises médicales sur les prises de sang, les rendez-vous, comme tout le monde, et donc qui étaient limitées à 100 €, qui étaient plafonnées. Et en fait, là, on va peut-être passer à 200 €. Bon, on va voir entre les sénateurs, sénatrices et les députés ce qu'ils vont faire. Mais c'est vrai que c'est assez incroyable. C'est-à-dire que les personnes sont malades, elles doivent prendre des traitements, parfois à vie. Et en plus de ça, on leur demande de payer des soins. Et derrière ce montant-là, puisque le gouvernement essaie d'expliquer que c'est le plus faible niveau de l'OCDE, mais en réalité, il y a plein de restes à charge invisibles, ce qu'on appelle des RACI en acronyme. C'est toutes ces choses qui ne vont pas être prises en charge par l'assurance maladie, que ce soit les conseils nutritionnistes, la santé mentale et tous les autres soins. Donc, encore une fois, ce budget...
Et surtout les soins, y compris dits de confort, qui en fait permettent juste de supporter un petit peu les effets multiples de ces traitements relativement lourds. Quand
même. Je n'osais même pas en parler, mais c'est vrai que cette expression de soins de confort, moi je ne peux plus l'entendre. Et en plus, selon qui en parle, les soins de confort, parfois ça va être le kiné ou autre. Et en fait, c'est scandaleux. Vraiment, ouais, je ne peux plus l'entendre cette expression, mais c'est vraiment ce qu'aujourd'hui... derrière les lignes budgétaires, en fait, il y a des vies. Et ça, je pense que nos décideurs, décideuses politiques devraient se rappeler chaque ligne qu'ils votent ou qu'ils ne votent pas. En fait, ce sont des vies derrière.
Et alors, tout à l'heure, on parlait un peu de prévention. Les associations qui interviennent dans le champ de la santé, et en particulier celles qui interviennent autour du VIH-SIDA, mais plus largement, disent, il y a un moment, au lieu de réduire les dépenses brutalement sur les traitements, mettons enfin en place une politique de prévention. On en est où ?
C'est toujours cette histoire entre prévention ou curatif. Alors, on avait des grands plans prévention hein, en France qui ont rarement été tenus par ailleurs et qu'on a rarement évalués. Donc, oui, investir dans la prévention, nous, c'est notre combat et on essaie de dire que ça coûte moins cher. En fait, on a dû prendre ces derniers mois, ces dernières années, des vocabulaires d'économistes, pour pas dire de banquiers, où en fait, on le sait, au niveau mondial, par exemple, $1 investi, c'est $19 d'économiser en traitement. Donc, le ratio est de 1 pour 19. Et quand on, malgré ces explications-là, en fait, aujourd'hui, on n'arrive pas à faire entendre ce discours-là. Parce que finalement, la prévention, on ne la détecte pas, elle n'est pas toujours évaluable. Alors, nous, on nous demande de remplir des grands tableurs Excel pour dire le nombre d'entretiens ou autres. Et je pense que dans l'associatif, on est tous et toutes habitués à cela. Mais on nous demande de justifier de plus en plus l'argent. Je pense que, contrairement à des groupes privés lucratifs qui reçoivent des aides, on les justifie bien plus, nos subventions. Et donc, que ce soit les subventions ou sur la prévention dans le projet de loi de finances sécurité sociale, il y a un désengagement de l'État. Je ne sais pas comment l'appeler autrement, en fait.
Et alors, peut-être une dernière question sur les histoires budgétaires. Justement, comme la prévention au niveau de l'État n'est pas au top, bah c'est beaucoup depuis le début, hein, depuis les années 80, c'est les associations qui ont pris le relais ou qui ont assuré le minimum, plutôt. Sauf qu'en plus de la baisse des budgets de la sécurité sociale, il y a aussi des baisses pour les associations en général. Ça va beaucoup toucher le secteur dans lequel vous intervenez ?
Alors, je pense que peut-être pour faire un peu d'histoire, on avait quand même été alerté il y a une dizaine d'années par nos camarades associatifs dans l'environnement, la défense de l'environnement, et je pense notamment à Greenpeace qui avait expliqué que, en fait, aujourd'hui, on pouvait plus tenir sur des financements publics puisqu'il y en avait plus, et en fait, on a laissé les défenseurs de l'environnement un peu dans leur bulle et sans prêter attention à leur discours. En interassociatif, là, on est plusieurs structures, que ça soit dans la santé, le sport, la culture. J'ose même pas aborder sur cette antenne la radio. On est plusieurs structures à être très impactées par les coupes budgétaires. Et donc, le 10 octobre, on s'est réunis dans un mouvement qui s'appelle « Ça ne tient plus ». Et donc, c'est de dire qu'aujourd'hui, le secteur associatif est clairement sacrifié. Au niveau de la santé, c'est des associations comme APF France Handicap hein, qui sont obligées de faire un plan social à aide. Malheureusement, on est dans cette situation-là, donc depuis fin septembre. Bah, concrètement, nous, aujourd'hui, l'État nous a demandé d'augmenter les salaires de l'ensemble de nos 500 salariés en France sans les compenser. Ça nous fait 1 500 000 euros. Et après, on nous a coupé des subventions de la Direction générale de la santé sur les centres de santé sexuelle. Et donc, on nous a annoncé au mois de mai 2 400 000 euros en moins pour la fin du budget 2025 sur un budget de 48 millions. Donc là, en fait, c'est 61 postes qu'on va supprimer sur 500. Et c'est là où ça me fait mal de le dire à cette antenne-là. Mais la conséquence directe à Amiens, ça va être la fermeture de l'antenne de Aide Amiens, très clairement.
Ben merci. Comme toutes les semaines, je vous rappelle, vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec cette orientation que prend le budget. Il y a des modèles de courrier sur le site de la radio. Vous en trouvez dans tous les réseaux associatifs. N'hésitez pas à écrire à vos élus locaux. En ce moment, ça se discute au Sénat. Et c'est les maires de toutes vos communes qui sont les électeurs, les premiers électeurs des sénateurs. Donc n'hésitez pas à aller leur parler sur le marché ce soir, demain, tous les jours. Et puis, mercredi 10, à partir de 18h30, on fera une grande émission spéciale avec plein d'associations, de gens du secteur culturel, de tous les secteurs d'activité qui risquent d'avoir des baisses d'activité dès l'année prochaine. Restez à l'écoute.
Il faut continuer de se mobiliser ensemble.
Et justement, en parlant de mobilisation, est-ce que vous pouvez nous dire un peu, Emmanuel, comment agit AIDS pour lutter contre le sida? Quelle ampleur aussi ont vos actions, que ce soit au niveau national ou aussi au niveau international, puisque les décisions budgétaires ont également annoncé une coupe de 2,3 milliards d'euros dans l'aide publique au développement?
Alors, au niveau national, donc, nous, on agit essentiellement dans les lieux de rencontre extérieurs, les saunas, là où on sait qu'on va rencontrer les publics les plus exposés. Donc, ça, c'est la grande partie de notre action en France. À l'international, en fait, il y a maintenant un peu plus d'une quinzaine d'années, on s'est fédéré dans un réseau qui s'appelle Coalition Plus. Et donc, on est présent dans plus d'une cinquantaine de pays. Ça rassemble plus d'une centaine d'associations. Et il y a un homme, Donald Trump, qui a décidé au mois de janvier de couper l'aide internationale, donc PEPFAR et USAID. Et donc, c'est dramatique hein, parce que dans certains pays, c'est 80%, voire 100% de l'aide américaine. Et donc là, ça a été catastrophique. Ce qui a été problématique, c'est qu'en fait, les décisions de Donald Trump, elles se sont additionnées aux décisions qui ont été prises par plusieurs gouvernements, dont celui de la France en 2024 déjà, de couper l'aide publique au développement. Donc, la coupe a été drastique. Hein. Aujourd'hui, sur deux ans, dans le projet de loi de finances actuel et plus celui de l'année dernière, c'est plus de 50% de l'aide internationale qu'on coupe. Et le 21 novembre, on avait la conférence de reconstruction du Fonds mondial de lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme, qui se tenait à Johannesburg. Et là, ça a été assez hallucinant. Ça fait 20 ans que ce fonds existe et Emmanuel Macron n'est pas venu. Il a boycotté. Alors, je ne pense pas que ça soit ses éléments de langage, mais je ne vois pas ce que c'est quand un chef d'État, qui est le deuxième financeur mondial, ne vient pas. Et la France n'a toujours pas pris d'engagement pour soutenir ce fonds qui se reconstitue tous les trois ans. Concrètement, dans notre réseau international Coalition Plus, on ferme des cliniques. On ne peut plus payer de professionnels de santé. On n'arrive plus à mener des actions au plus proche du terrain. J'étais hier à Lille avec des personnes qui viennent du Cameroun, de Guinée, qui sont très exposées par l'épidémie de VIH-Sida. Et en réalité, dans ces pays-là, aujourd'hui, il faut faire plus de 100 km pour avoir accès au dépistage. Et en plus de ça, on peut y rajouter des politiques répressives, notamment à l'encontre des publics LGBT, où clairement, on a des pays qui durcissent leurs lois, durcissent la législation. Et donc, en fait, on ne peut plus utiliser, d'ailleurs, ni aux États-Unis, ni dans certains pays en Afrique, les termes gay, les termes trans. Et tout ça, c'est nier la recherche, nier la science, hein, puisque c'est une partie aussi de nos populations qui sont concernées par cette épidémie-là. Et quand on ne peut plus mettre des mots et des personnes exposées derrière, au-delà de la recherche qu'on ne peut plus faire, eh ben, on ne peut plus aller les toucher. Et donc ça, c'est vraiment une dérive des politiques d'extrême droite, hein, très clairement. Et un point de vigilance qu'on pourrait peut-être avoir en France, c'est que le Front National ou le Rassemblement National maintenant, c'est l'extrême droite. Mais sauf que les politiques d'extrême droite, aujourd'hui, elles sont plus que dans ces... elles sont pas uniquement dans ces partis-là. Et je pense que quand on commence à couper des subventions à tous les secteurs associatifs, de la culture, de la santé, de la solidarité, de l'éducation et populaire, on se dirige dangereusement en fait sur ce type de politique-là. En tout cas, ça montre que des secteurs pour lesquels on s'est battu pendant des décennies parfois pour obtenir des financements, eh ben en fait on peut être victime du jour au lendemain de décisions d'une personne. Alors en France, c'est 1000 personnes qui doivent essayer de se mettre d'accord, mais en réalité, quand ils n'y arrivent pas, eh ben il n'y a plus rien qui compte. Et là, le budget actuel est une catastrophe. Et si demain, on n'a pas de budget, ça ne sera pas mieux pas non plus. Donc, il faut qu'on ait vraiment un réveil de nos politiques. Et je pense que ce qui est important de dire, c'est que les élus locaux ont aussi une responsabilité. On va avoir des élections municipales en 2026. La ville d'Amiens, par exemple, ne finance pas l'association Aide, mais comme de nombreuses autres structures, ni l'agglo ou la métropole, hein, je tiens à le préciser. Et donc, en fait, aujourd'hui, on laisse les agences régionales de santé sur la santé financer les associations. Sauf que l'État, en parallèle, coupe jusqu'à 15% de budget dans les agences régionales de santé. Donc, les villes, dans certaines, quand elles sont à droite, hein, majoritairement, et d'extrême droite, n'en parlons pas, on était implanté à Béziers ou à Perpignan, on n'existait pas, et bah, les villes coupent des financements, l'État coupe des financements dans les structures qui nous financent. Et donc, au final, sans être complotiste, à un moment, on se demande si ce n'est pas plus facile de se débarrasser de nous en nous coupant nos financements.
Et surtout que l'importance de Aide est quand même cruciale, notamment au niveau des pertes. C'est environ 74 000 personnes perdues depuis cette
alors,
année.
Alors, au niveau international, on estime... Donc, il y a une personne par minute qui meurt du sida dans le monde. Une personne par minute. Les décisions de Donald Trump, c'est une personne de plus toutes les trois minutes. Donc, en fait, les coupes de financement, elles ont des impacts directs et qu'on peut malheureusement suivre. Donc, on a développé à l'international PEPFAR Tracker qui permet de suivre chaque jour où les dotations ne sont pas réallouées, le nombre de personnes qui meurent. Et donc, il y a cet objectif de l'ONU-SIDA de zéro nouvelle contamination en 2030. C'était un bel idéal et en fait, c'est quelque chose qui était tout à fait possible parce que tout existe. Les traitements, ils sont là, le dépistage, il est là. Mais en réalité, vu qu'on ne le rend pas accessible, cet objectif 2030, il s'éloigne de plus en plus. Et ça, c'est vraiment important, je pense, de le dire, c'est qu'on a absolument tout pour mettre fin à l'épidémie. Mais aujourd'hui, par manque de volonté publique, avant je parlais de courage politique, mais en fait, c'est de volonté des pouvoirs publics, l'absence de volonté des pouvoirs publics va peut-être faire qu'on va réavoir une épidémie, y compris en France. Et d'ailleurs, on le voit, hein, pendant la crise Covid-19, on n'avait pas accès au dépistage, que ce soit sur le VIH, sur le cancer. Hein, c'est les deux pathologies qui ont été les plus concernées. Et donc là, en fait, alors qu'on avait réussi à diminuer ces dernières années, avant l'épidémie de Covid-19, et ben là, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, l'épidémie a repris. Donc là, l'année dernière, on nous a dit, on attend de voir les chiffres 2024. Les chiffres 2024 sont sortis. On est toujours à 5100 nouvelles contaminations. Donc l'épidémie est en train de stagner en France, alors qu'on a tous les outils.
Et donc, c'est quoi la suite? Quelles sont les actions à suivre pour Aide et pour aussi participer à l'aide de lutte contre le sida?
Eh ben, je pense que ce qui se passe à Amiens, la réunion des acteurs associatifs, elle est primordiale. L'interpellation des parlementaires, elle est indispensable. Il faut continuer de se mobiliser. Le budget n'est pas encore voté. Donc, on a encore, j'ai envie de croire, hein, mais peut-être que je suis un peu trop jeune, mais j'ai envie de croire qu'il nous reste des marges de manœuvre. Mais donc, ça, c'est la première chose. Et après, je suis toujours embêté de le dire, mais aujourd'hui, si on survit, nous, c'est 50% de nos fonds, c'est des fonds privés, donc de donateurs, donatrices. Vous savez, c'est les personnes qui viennent vous voir à la gare pour vous demander de l'argent. Ben, en fait, c'est les dons, aujourd'hui, c'est encore une solution, une marge de manœuvre qui nous reste. Et après, évidemment, il y a se mobiliser, hein, se rapprocher des locaux de Aide. La fermeture du local d'Amiens ne veut pas dire qu'on arrêtera nos actions à Amiens complètement. Bien évidemment, on n'a pas envie d'en arriver à ce stade-là. Mais ça va être difficile et il est temps que l'ensemble du secteur associatif se mobilise comme on a été alerté il y a 10 ans par nos collègues dans l'environnement.
Eh bien, merci beaucoup Emmanuel pour cette très belle interview et à très vite.
Merci J'espère. Beaucoup et à bientôt. Le combat n'est pas terminé.
Je croyais pas en grand chose.
Vous êtes en direct de Radio Campus Amiens. On vient d'écouter l'Atlantique de Opaline. Et pour la fin de cette émission, Léo, tu vas nous présenter les actualités du jour.
Oui, merci Sonia. Donc on commence cet agenda culturel et associatif avec un rendez-vous musical. L'artiste Dajak, à mi-chemin entre la pop et l'indie, sera en concert à la Lune des Pirates le 5 décembre à 20h30. Comptez 17 euros pour assister au concert de cet artiste en pleine ascension, déjà remarqué en première partie de nombreux grands noms tels que Giorgio, Luigi ou encore Pierre Demar. On change complètement d'univers pour passer au spectacle vivant. La compagnie Comme sur des roulettes vous donne rendez-vous ce jeudi 4 décembre à 18h30 au théâtre Les Docks à Corbie pour découvrir leur spectacle La Puce, Le Chameau et les autres. C'est un moment tout en douceur, pensé pour les plus petits, mêlant poésie, musique et danse autour d'une galerie d'animaux. Le tarif est de 11 euros pour les adultes et 6 euros pour les enfants. Plus d'informations sont disponibles sur le site de la mairie de Corbie ou par téléphone au 03 22 96 43 30. On poursuit cet agenda avec un temps fort autour du monde du travail. Ce jeudi 4 décembre, de 9h à 16h, le centre de formation Fernand Duchaussois à Amiens accueillera une grande conférence départementale consacrée à la santé au travail. Un événement organisé par le syndicat de la Confédération française des travailleurs chrétiens avec 6 thématiques majeures qui seront abordées. Les accidents du travail, la santé mentale, l'activité physique, l'accompagnement dans les addictions, la réglementation ainsi que les troubles musculo-squelettiques. Pour y participer, il faut être adhérent ou parrainé par un membre du syndicat. Les inscriptions se font 03 22 22 33 20 ou par mail à syndicat.cftc-somme@orange.fr. Et puis on termine avec un rendez-vous consacré à la création audiovisuelle. Le Forum de l'audiovisuel se tiendra ce week-end les 5 et 6 décembre au pôle cathédrale de l'UPJV. Vous pourrez y découvrir les métiers de l'image et du son, avec cette année une thématique originale, les arts martiaux. Plusieurs ateliers, rencontres et démonstrations sont prévus tout au long du week-end. À noter que Radio Campus Amiens sera en direct sur place de 14h à 16h. Toutes les infos sont à retrouver sur la page Facebook du Forum de l'audiovisuel ou sur leur site officiel.
Merci Léo. Et c'est déjà la fin de votre Info Club Sandwich. On se quitte en musique avec Birds Fly du groupe The Icicle Works.